Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des troubles ou gènes au niveau intestinal, problèmes de transit, douleurs abdominales, autrement dit, des questions qui concernent ou ont concerné un jour ou l'autre chacun, chacune d'entre nous. Et parfois, ces problèmes peuvent être liés à des situations assez embarrassantes, voire carrément taboues. Pas simple d'en parler dans l'entourage, de demander conseil à un ami, voire même pour certains, difficile d'aborder le sujet avec un médecin. C'est vrai en particulier lorsque l'on parle du transit, des selles, de tout ce que certains appellent trivialement la tuyauterie, alors qu'en réalité, la bonne cohabitation avec ce système digestif est essentielle pour notre confort, notre bien-être, mais aussi pour notre santé en général. D'où l'importance de démêler le vrai du faux, décrire la situation, identifier les symptômes et trouver des réponses adéquates, adaptées, des conseils exactement qui nous correspondent. Et si vous avez une question à poser, eh bien, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. Douleurs abdominales, changements observés dans le transit, savoir quand prendre rendez-vous pour une consultation. Avec nous en studio, docteur Jean-Jacques Reynaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Avicenne APHP à Bobigny en région parisienne. Et on va retrouver tout à l'heure en Côte d'Ivoire le docteur Alassane Mahassadi, épidémiologiste, gastro-entérologue et proctologue au CHU d'Angrée d'Abidjan. Et puis en fin d'émission, chronique anti-sédentarité signée le docteur Jean-Marc Sen, qui est bien sûr médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Alors, des questions sur certaines douleurs, certains problèmes bien précis. Tout d'abord, si vous le voulez bien, ce qui pourrait ressembler à la situation idéale lorsque l'on parle d'un bon transit intestinal. Docteur Jean-Jacques Reynaud, de quoi parle-t-on exactement ?
Chacun son transit, finalement, il suffit de bien vivre avec. Il y a des personnes qui vont aux toilettes tous les jours, d'autres personnes qui vont aux toilettes tous les 3 jours, plusieurs selles par jour. Donc finalement, ce qui est inquiétant pour le médecin, c'est qu'il y a une modification du transit. Ou ce qui est inquiétant pour les patients, c'est lorsque ce transit est associé à des douleurs, à des ballonnements. Mais globalement, jusqu'à 3 selles par jour, ça se passe bien. Et 1 selle tous les 3 jours, ça se passe bien aussi. Donc vous voyez, c'est un spectre très large.
Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses entre ceux qui s'inquiètent trop et ceux qui s'inquiètent pas assez pour en fait se comprendre, se connaître et vivre bien avec son transit intestinal.
C'est ce que disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il faut se connaître. Et s'il y a une modification, c'est sûr, c'est plus inquiétant. Alors, ce qui est aussi inquiétant, c'est le terrain. À partir de 50 ans, on a plus de maladies, donc il faut consulter plus rapidement. Et puis, il ne faut pas consulter dès qu'il y a un petit chose qui ne va pas. Généralement, on considère que dans un délai de 3 semaines, il y a des choses qui peuvent être passagères et rentrer dans l'ordre.
Donc, il y a le facteur temps, il y a aussi le facteur symptôme. Quand on observe d'autres modifications que cette fameuse fréquence, il y a aussi des motifs de consultation tout à fait sérieux.
Tout à fait. C'est-à-dire, il y a les saignements qui inquiètent toujours, quelquefois à tort, mais quelquefois à juste raison. C'est un peu comme une alarme incendie, c'est-à-dire quand ça sonne, il faut aller voir quand même. Après, il y a le météorisme qui ne nous inquiète pas beaucoup, mais qui est très gênant. Après, il y a la perte de poids qui peut être gênante.
Je vous arrête parce que pour le ciel, voilà, ballonnement. Voilà, sinon, c'était un petit peu compliqué.
Après, il y a la perte de poids qui peut être aussi inquiétante et les douleurs abdominales, ça dépend de leur intensité. Il faut savoir que l'intensité d'une douleur ne préjuge pas de sa gravité. Il y a des gens qui ont des maladies graves et des douleurs faibles et l'inverse est aussi vrai.
Alors, ça veut dire que quand ces symptômes sont en plus conjugués, là, il y a vraiment matière à consulter.
Tout à fait, d'autant que c'est récent sur un terrain particulier.
Il y a des personnes qui viennent vous voir en consultation, docteur Reynaud, qui disent « je suis constipé » et qui ressortent avant même tout traitement de votre consultation en n'étant plus constipé. Ça veut dire que finalement, c'était une mauvaise interprétation.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un test qu'on appelle le temps de transit où on fait avaler des petits marqueurs qui sont radio-opaques et on voit comment ils sont évacués. Et la personne constipée, souvent un test, peut avoir un test normal. Donc on peut se tromper de se dire constipé alors qu'on ne l'est pas.
Docteur Reynaud, question très générale comme celle que pose Djibril de Guinée sur Facebook. Il demande tout simplement quelles peuvent être les causes des brûlures d'estomac. Déjà, quand on dit brûlure d'estomac, on parle de quoi ?
Alors c'est très variable, c'est-à-dire qu'il y a une région qu'on appelle le creux épigastrique en médecine, que les patients appellent le creux de l'estomac, et ce creux-là, c'est finalement un carrefour de beaucoup d'organes, donc ce n'est pas forcément l'estomac. Mmh. Les brûlures d'estomac peuvent être dues au côlon, par exemple. Mmh. Et une brûlure, c'est très vague, ça dépend de beaucoup de choses. Alors ça peut être un reflux, une gastrite, un ulcère, ça peut être énormément de choses. On aurait de quoi en parler pendant des heures.
Ça veut dire que des mêmes symptômes peuvent être à la fois le signe d'une atteinte sans gravité, mais parfois aussi de problèmes plus sérieux.
Tout à fait, donc il faut savoir faire la part des choses.
Alors, rechercher les causes d'un problème, précisément, c'est ce que souhaite Mariam. Elle explique qu'être concernée par des reflux gastriques, cette auditrice de Guinée demande si ça peut être causé par des aliments épicés. Est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Alors, non, ce n'est pas causé par des aliments épicés. Par contre, lorsqu'on a un reflux, on peut abîmer l'œsophage. Ça crée une sorte de coup de soleil de l'œsophage. Et lorsqu'on prend quelque chose d'épicé, ça va brûler. Mais ce n'est pas le reflux qui brûle, mais l'aliment épicé qui, au passage de l'œsophage irrité, va brûler.
Et le reflux, lui, il est dû à quoi précisément ?
Alors, le reflux, c'est dû à notre propre acidité, avec l'estomac qui ferme pas très bien, et notre propre acidité va brûler le bas de l'œsophage. Donc finalement, vous voyez, c'est pas tellement alimentaire, sauf lorsqu'on mange des aliments gras qui vont ralentir la vidange de l'estomac, et comme l'estomac est plein, il y a plus de liquide à refluer vers le haut.
Donc vous nous expliquez en quelque sorte que c'est quelque chose de mécanique, pour autant, est-ce qu'on peut y remédier ?
Oui, on peut y remédier de manière quelquefois simple, avec des traitements, mais malheureusement, après, on devient esclave de ces traitements. Il y a 5 millions de Français qui prennent des traitements contre le reflux en France. Donc, il y a des traitements très efficaces qu'il faut savoir prendre en quantité raisonnable et pour une durée limitée, puis essayer d'arrêter. Parce qu'il y a une véritable toxicomanie. Quand on arrête brutalement, le reflux revient. Donc, il faut toujours arrêter progressivement.
Alors, beaucoup d'affections qui concernent cette sphère intestinale. Question de Mohamed du Mali qui demande comment différencier le syndrome de l'intestin irritable d'une crise d'appendicite. Alors là, on n'est pas du tout sur...
On n'est pas sur le reflux, ouais. On est sur quelque chose de différent. Donc l'appendicite, tout le monde le sait, c'est en bas et à droite. L'intestin irritable, ça peut être partout. Donc c'est vraiment sur une durée. L'appendicite, c'est une crise aiguë. L'intestin irritable, c'est chose de chronique. Et puis il y a des signes associés à l'appendicite avec de la fièvre, des vomissements, des choses comme ça. Donc quelquefois, ça peut être compliqué. Mais c'est rare que la personne n'arrive pas à faire la différence elle-même d'ailleurs.
Ça veut dire, en termes de douleur, on va vraiment distinguer quelque chose de différent ?
Oui, parce que la personne qui a un intestin irritable a une douleur chronique. La personne qui a une appendicite a une douleur aiguë. Et en plus, la douleur de l'intestin irritable, elle change de position. Elle n'est pas toujours au même endroit. Donc la douleur de l'appendicite, elle est généralement en bas et à droite, ou elle peut être au milieu.
Alors en tout cas, Mohamed du Mali qui se pose la question, ça veut dire que ça mérite quand même un petit détour au moins vers un centre de santé pour poser la question, exposer les symptômes avec un soignant pour faire la part des choses justement pour éviter qu'il y ait éventuellement une complication d'une appendicite là qui peut être assez sérieuse.
Qui peut être une appendicite, mais en tout cas quand on a une douleur qui dure depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, ce n'est pas une appendicite.
Et en tout cas, on consulte quand ça dure aussi longtemps ?
Oui, on consulte, mais pour d'autres raisons. On ne cherche pas une appendicite, on cherche autre chose.
On cherche autre chose. Et on part maintenant, si vous le voulez bien, pour le Bénin.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Et on retrouve en ligne Odilon. Odilon, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors Odilon, vous êtes âgé de 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité aujourd'hui participer à notre émission ? Allez-y.
Oui madame, ça fait pratiquement 5 ans que je sens des brûlures dans mon estomac. Et j'en ai parlé à un ami qui est dans la médecine. C'est lui qui m'a conseillé d'aller voir un gastro-entérologue.
Oui.
Donc, je suis allé au CHU de Cotonou. Mmh. Le docteur m'a demandé l'endoscopie. Mmh. Donc, après l'examen, il s'est révélé que j'ai une hernie hiatale.
Une hernie hiatale ?
Oui, et une gastrite érythémateuse non ulcérée.
Alors, on va s'arrêter tout de suite. On va vous retrouver juste après, Odilon. Je me tourne vers le médecin, notre invité en studio, le docteur Jean-Jacques Reynaud. Expliquez le plus simplement possible ce qu'est une hernie hiatale.
Alors, une hernie hiatale, c'est la remontée de l'estomac qui normalement est dans l'abdomen, au niveau thoracique, sur quelque chose qui est sur une longueur de plus de 3 cm. Ça doit quand même avoir une certaine longueur.
Donc, c'est un problème là aussi mécanique.
C'est un problème mécanique et lorsque cette hernie remonte, elle va ouvrir le haut de l'estomac et favoriser le reflux.
D'accord. Alors, double diagnostic pour Odilon de Cotonou, gastrite érythémateuse. On connaît le terme érythémateux quand on parle de dermatologie souvent.
Ça veut dire rouge tout simplement.
Rouge, tout simplement.
C'est une gastrite, une inflammation de l'estomac qui est rouge. C'est assez banal. Je suis persuadé que si on prenait des gens au hasard dans la rue, on en trouverait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ce genre de terme qui peut paraître impressionnant.
C'est ça. Le mot est compliqué, la réalité est plus simple.
Tout à fait.
Odilon, vous retrouve à Cotonou. Après ce diagnostic de hernie hiatale donc, et de gastrite, qu'est-ce qu'on vous a conseillé à l'hôpital ?
Oui, ils m'ont donné certains conseils hygiéno-diététiques.
Oui, C'est-à-dire notamment pour l'alimentation?
Voilà. Donc, il faut que j'évite les aliments épicés,
oui.
les excitants, les boissons gazeuses, le jeûne prolongé et manger à des heures régulières et éviter les aliments acidifiés. Voilà.
Est-ce que ça vous a soulagé ces conseils déjà? Est-ce que vous les avez suivis, Odilon?
Si, je l'ai su, C'est ça qui m'a permis de retrouver un peu la paix au niveau de mon estomac. Donc voilà,
donc,
ça m'a beaucoup aidé.
Donc ça va mieux. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité?
Voilà, donc je voudrais savoir s'il y a une possibilité d'intervenir de façon chirurgicale, c'est-à-dire d'opérer par rapport à l'hernie hiatale. Il y a une possibilité d'opérer.
Moi, j'ai une question pour vous. Odilon, vous dites que ça vous a soulagé, ces conseils. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez à une opération alors que ça va mieux?
Oui, parce que, vous savez, il y a aussi, en dehors de ça, aussi le reflux gastrique, associé au reflux gastrique, quoi. Parce que c'est d'après ce que le docteur m'a expliqué, il y a aussi le reflux gastrique.
Mais donc, vous avez un reflux en plus, mais vous disiez qu'en changeant, par exemple, en arrêtant les boissons gazeuses ou en limitant certaines choses un petit peu épicées, ça allait mieux. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, l'inconfort, la gêne et les douleurs, ça pourrait justifier une opération à vos yeux?
Oui, en fait, madame, normalement, c'est que les brûlures que je ressentais au début, je ne ressens plus depuis que j'ai mis les conseils à
en application, en application.
Voilà, en application. Je ne sens plus ces brûlures au niveau de l'estomac, en fait. Maintenant, le problème, c'est le reflux gastrique, parce qu'il m'a dit, comme il y a une hernie hiatale là-bas, ça favorise le reflux. Donc, du coup, là, l'estomac est souvent acide. Et donc, ça favorise le reflux au niveau de la bouche. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y a une possibilité d'intervenir pour quand même réparer cette hernie, histoire d'empêcher le reflux.
Pour retrouver davantage de confort. Docteur Jean-Jacques Reynaud, est-ce que, justement, une chirurgie serait préconisée dans un cas comme celui d'Odilon?
Alors, il faut savoir que l'hernie hiatale, c'est banal. Quelquefois, on la trouve même quand on ne la cherche pas. Ça touche des millions de personnes en France et sûrement en Afrique aussi. C'est souvent lié à une prise de poids, mais pas toujours. Alors, la chirurgie est possible, mais tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que la chirurgie ne règle pas toujours le reflux. La moitié des gens qui sont opérés continuent à prendre des traitements contre le reflux. La chirurgie comporte un risque, comporte un coût. Et donc, en France, on ne perd quasiment plus du reflux. Sauf de situations exceptionnelles, lorsque la personne décrit des régurgitations, c'est-à-dire lorsqu'elle se penche en avant, il y a des aliments qui remontent dans la bouche. Et là, en effet, on peut discuter d'une chirurgie. Donc la chirurgie, on réduit l'hernie hiatale et on crée une boucle avec l'estomac autour de l'œsophage pour recréer une zone de pression. Mais disons que vraiment, ça ne se fait quasiment plus. Moi, je le préconise une à deux fois par an pour mes patients. Donc il faut raison garder. Et je comprends ce monsieur qui est inquiet pour le reflux, mais le reflux en soi n'est pas forcément dangereux, sauf cas particulier. Et la deuxième chose, c'est astreint des règles diététiques qui l'empêchent peut-être de vivre. Donc, il faut faire très attention, le reflux est très banal. Il ne faut pas tomber dans des régimes excessifs qui vous empêchent de vivre normalement.
Alors, on vous remercie beaucoup pour votre intervention, Odilon. Merci pour ces questions. Vous avez le sentiment, docteur, qu'une partie importante des troubles gastriques, c'est lié à des déséquilibres sur le plan de l'alimentation, aussi de la boisson, hein, parce qu'il y a aussi les boissons gazeuses, il ne faut pas les oublier. Est-ce que c'est souvent, finalement, avec quelques, on ne va pas dire des conseils simples, mais des conseils de bon sens, qu'on arrive déjà à améliorer la situation?
Quelquefois, oui, quand le reflux est peu sévère, c'est-à-dire quand on a des reflux ponctuels qui arrivent une fois par semaine, dans des situations festives, etc. Après, il faut savoir raison garder. Si on aime les boissons gazeuses, il ne faut pas les interdire formellement, mais il faut savoir qu'après des boissons gazeuses, on risque d'avoir un inconfort. Le reflux, il faut apprendre à vivre avec, finalement. Donc, si on prend des règles de vie qui, finalement, vous empêchent de vivre, on n'est pas gagnant.
Donc, il faut faire un peu juste mesure. Alors, on va prendre d'autres questions en direct. On va vous retrouver, docteur Reynaud, juste après 13h avec Kaka, ce titre Electric Light sur RFI. We're compelled to dance the night, play your parts. Priorité santé sur RFI, nous parlons des affections digestives. Quels sont les signes qui doivent alerter? Quels conseils pour trouver du soulagement? Toujours avec le docteur Jean-Jacques Reynaud, gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Avicenne à PHP à Bobigny en région parisienne. Mieux prendre en charge les maladies digestives, c'est aussi mieux comprendre le fonctionnement du microbiote. Et à ce sujet, des chercheurs, dont vous-même, vous travaillez sur une étude à très large échelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
C'est une étude passionnante parce que pour l'instant, pour le microbiote, on en dit beaucoup, mais on en connaît peu.
Il y a des livres à gros tirage qui sont publiés.
Il y a des livres à gros tirage. Sur Internet, on trouve des tas de médicaments.
Ouais. Et il y a des espoirs aussi pour certains patients qui sont atteints de maladies assez graves.
Il y a des espoirs pour beaucoup de maladies comme le diabète, comme le surpoids, comme beaucoup de choses. Mais finalement, on ne connaît pas beaucoup de choses. Et donc, ce qui se passe, il y a une étude française qui s'appelle The French Gut qui se fait sur Internet où on remplit un questionnaire de santé qui est anonyme. Et donc, avec ce questionnaire de santé, on connaît les pathologies des patients. On peut ne pas en avoir. Et puis après, on va recevoir à la maison un petit kit pour prendre un petit échantillon de caca. C'est le même kit que l'on utilise pour le dépistage cancer colorectal. Donc, on met un peu de caca dessus, on le renvoie. Et donc, avec ça, on espère recruter 100 000 patients sur quelques années. Et avec ça, connaître le microbiote, essayer de faire un rapport entre le microbiote et les maladies, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de fantasmes et pas beaucoup de réalité.
Donc, c'est une, comme on dit, affaire à suivre. Ça veut dire dans combien de temps on aura des résultats?
Alors, on est en train de recruter. On a déjà recruté 10 000 personnes, on doit arriver à 100 000. Et on en a encore pour 4-5 ans, parce que recruter 100 000 personnes, c'est long. Donc, on aura des résultats d'ici 5-6 ans, à mon avis.
Alors, on a des auditeurs en ligne à venir. Tout à l'heure, on va prendre en ligne Jérémy. Mais d'abord, je me penche sur le problème que nous pose Awa. On a essayé de l'appeler, mais on n'a pas réussi à la joindre. Pour autant, on va quand même poser sa question. Awa, elle a 50 ans bientôt. Elle vit à Conakry, en Guinée. Elle nous explique aussi par ailleurs qu'elle a 3 enfants. Et elle, son problème, c'est une constipation. Elle dit « Je suis constamment constipée. Il m'arrive régulièrement de ne pas aller aux toilettes pendant 5-6 jours. » Et ça l'inquiète. Alors, on lui a préconisé des traitements traditionnels, notamment des feuilles de séné. Je me tourne vers vous. C'est quoi ces feuilles de séné?
Alors, le séné, c'est un traitement qui existe depuis le Moyen-Âge en France. Et maintenant, nous, on l'a sous forme de comprimé. Mais dans d'autres pays, on peut l'avoir de manière naturelle, directement dans la plante. Donc, c'est un laxatif qui marche très bien, c'est diabolique, mais par contre comme c'est diabolique, ça finit par abîmer le côlon et ça crée ce qu'on appelle des mélanoses. Le côlon devient tout noir et devient hypotonique, et c'est-à-dire il se contracte moins bien. Et il y a même des toxicomanies, c'est-à-dire qu'on augmente progressivement les doses, ça marche de moins en moins bien. Et donc pour en sortir, il y a un véritable sevrage à faire. Donc ça peut être utilisé, mais de manière très ponctuelle, après un voyage par exemple, mais en aucun cas de manière chronique.
Ça veut dire qu'en général, les laxatifs qui sont employés comme ça, on va dire, en usage local, c'est quelque chose qui est conseillé la plupart du temps sur un temps assez court?
Alors, sur un temps assez court de quelques jours, oui, après un voyage, on est constipé, on le prend, ça libère, on est content. Par contre, tout ce qu'il y a des plantes, alors les plantes ont bonne presse parce que c'est naturel, donc c'est norme, c'est quelque chose qui n'est pas toxique, mais les plantes peuvent être toxiques. Et donc, il faut se méfier des médicaments à base de plantes et notamment les médicaments sous forme de comprimés. Les laxatifs doux qu'on peut utiliser chez la femme enceinte, chez l'enfant de manière chronique, ils sont plutôt sous la forme de gel ou sous la forme de sachets qu'on met dans de l'eau.
Donc c'est meilleur comme
donc c'est meilleur parce que c'est plus doux.
Alors, il y a d'autres questions de Awa par rapport à son alimentation. Elle dit qu'elle est déjà allée faire un contrôle en Tunisie. Elle a passé une coloscopie, donc un examen invasif pour voir l'état justement de son système digestif. On lui a expliqué, le médecin lui a dit que c'était à cause de son régime alimentaire. Effectivement, elle reconnaît qu'elle mange beaucoup de riz, de féculents et pas beaucoup de légumes. Et elle voulait savoir si ce qui la concernait, c'était grave, parce que dans son message, elle paraît assez inquiète. Elle s'inquiète, elle craint que cette constipation se soit associée à une maladie. Évidemment, on ne fait pas de consultation à distance, et encore moins quand on peut échanger avec les personnes en direct, quand on ne les a pas en ligne. Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'elle ait fait la coloscopie, parce que la maladie qu'on craint à partir de 50 ans, c'est le cancer du côlon. Donc à partir de 50 ans, symptômes nouveaux, coloscopie. Maintenant, comme sa maladie est plutôt ancienne et ce n'est pas associé à d'autres pathologies, c'est sûrement une constipation qui n'est pas liée à une maladie. Donc être constipé, ça ne crée pas des maladies. Faut faire attention au départ, quand on étiquette la constipation, de bien faire des examens à l'avance. Mais une fois qu'on a dit on est constipé, la constipation par elle-même n'est pas liée à une maladie et on ne prend pas de risque en étant constipé, mis à part un risque d'inconfort.
Par contre, quand le médecin lui dit il faut avoir que vous rajoutiez des légumes et des fibres dans votre alimentation, ça c'est un conseil de bon sens, assez simple, et qu'il faut justement l'inciter à suivre.
Tout à fait, en prenant plutôt des fruits cuits que des fruits crus, parce que les fruits crus, ça peut créer des ballonnements, en évitant le son, parce que le son, c'est vrai que c'est une fibre, mais c'est une fibre insoluble qui peut ballonner aussi, donc il faut manger aussi des fruits et légumes, mais il faut manger de tout finalement, il ne faut pas s'interdire des choses.
C'est l'équilibre alimentaire une fois de plus. On va partir pour la République démocratique du Congo. On retrouve à Kisangani, Jérémy. Jérémy, bonjour. Jérémy, est-ce que vous êtes avec nous ?
Madame Caroline Paré, bonjour à l'invité docteur Jean-Jacques Renaud.
Alors, vous êtes étudiant en médecine à 22 ans, Jérémy, à Kisangani. Déjà, on vous félicite pour ça, pour ce choix. Les questions, c'est pour vous ou c'est pour votre apprentissage ?
Les questions, je voulais savoir si... il y a une catégorie de nourriture qui favorise les reflux gastro-œsophagiens.
Est-ce que vous-même, vous souffrez d'un reflux gastro-œsophagien ou c'est pour votre connaissance générale que vous posez cette question, Jérémy ?
C'est moi-même qui souffre. Je souffre moi-même.
D'accord.
Il y a une catégorie de nourriture comme... Ouais.
Et aujourd'hui, vous avez constaté que vous avez davantage de reflux quand vous mangez certaines choses ?
Effectivement. Comme les haricots, quand je mange les haricots, je constate plus de reflux gastro-œsophagien.
Docteur Jean-Jacques Renaud, reflux gastro-œsophagien, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand on parle de problèmes digestifs. Est-ce qu'il y a vraiment certains aliments qui le favorisent ?
Alors, il y a des livres, il y a des régimes très complexes, très astreignants qui existent. Donc, il y a deux types d'aliments qui favorisent le reflux. Le premier type d'aliments, ce sont les aliments gras qui ralentissent la vidange de l'estomac. Parce que quand l'estomac est plein, il y a plus de risques qui refluent. Deuxième type d'aliments sont les aliments qui diminuent la fermeture du haut de l'estomac, du sphincter inférieur de l'œsophage. Donc il y a certains aliments qui sont réputés le faire, comme le chocolat par exemple, mais on peut avoir du reflux sans chocolat. Donc comme je vous ai dit précédemment, je n'interdis pas les choses. Et quand on regarde ce que recommande la Société Savante Française, ils disent qu'il faut bien se connaître, éviter les aliments plutôt gras, essayer de perdre un peu de poids et ne pas s'interdire tout et n'importe quoi. Même les boissons gazeuses, ponctuellement, on peut en prendre, ce n'est pas la fin du monde.
Et vous avez aussi une question, Jérémy, qui concerne cette fois le lien justement entre ce reflux et la santé de vos dents. Allez-y.
Ouais, je voulais savoir si la coloration jaunâtre des dents peut être due à reflux gastro-œsophagien. Parce qu'on suppose que quand le reflux revient au niveau de la cavité buccale, ça revient peut-être avec une certaine acidité ou avec l'acide chlorhydrique. Et maintenant, j'aimerais savoir si ça peut faire du mal aux dents.
Alors, acide chlorhydrique, je me tourne vers le docteur. Il y a de l'acide chlorhydrique
dans
le reflux ? Oui,
ça correspond à l'acide chlorhydrique. C'est ce qui est quasiment de la HCl qu'on a dans l'estomac. C'est un pH très, très acide spontanément. Et c'est à digérer. C'est bon pour la santé. Mais ça doit rester dans l'estomac parce que l'estomac a une paroi très épaisse qui le protège. Alors, pour répondre à la question, classiquement, on parle de reflux. On appelle ça le pyrosis, ça veut dire le feu dans la bouche. Mais c'est rare que le reflux remonte jusque dans la bouche. Ça peut arriver. Classiquement, les dentistes disent que ça peut abîmer l'émail. Abîmer l'émail ne veut pas dire que ça entraîne coloration jaune des dents. Donc je pense que la coloration jaune des dents n'est pas due à ça. Et qu'on a des problèmes dentaires, mieux voir un dentiste qu'un gastro-entérologue.
Donc Jérémy, petit conseil, si la couleur de vos dents change, allez voir un dentiste, un spécialiste des dents. Et on vous remercie infiniment en vous disant très très bonne journée à Kisangani. Et surtout, bonne continuation dans vos études de médecine. C'est maintenant au Cameroun, à Yaoundé, qu'on retrouve Kamden. Kamden, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez 45 ans, Kamden, et vous établissez, vous, un lien entre une période un petit peu compliquée de dépression et des symptômes de ballonnement. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Oui, j'ai été dépressive pendant des années. Et pendant la dépression, il y a le haut et le ballonnement qui se sont installés. Mais ça fait 3 ans que je ne prends plus de médicaments, mais le symptôme est resté.
Parce que les doutes que vous aviez, c'était par rapport aux antidépresseurs que vous preniez, ou est-ce que parce que dans cette période de dépression, vous étiez complètement immobilisé, par exemple, vous ne bougiez plus de votre canapé ou de votre lit ?
Oui, je restais allongée toute la journée et je prenais beaucoup d'antidépresseurs. Et pendant cette période, il y a le rhume et le ballonnement qui se sont installés.
Aujourd'hui, en termes d'activité physique, vous en êtes où, Camden? Vous avez un petit peu repris le mouvement?
Oui, je suis complètement guérie depuis 3 ans.
Ouais.
J'ai repris la vie normale et ça va, ça va.
Vous aviez une psychothérapie associée aux médicaments pour aller mieux ou c'est passé comme ça?
J'ai pris des médicaments et le médecin m'a conseillé de faire beaucoup de sophrologie.
Ouais.
Oui, je le fais et je me sens mieux.
Ça vous a fait du bien cette relaxation?
Oui, c'est ça.
Donc vous allez mieux, ce qui est déjà la meilleure nouvelle. Et maintenant, vous avez un inconfort sous forme de rhume ou de ballonnement. Est-ce que vous avez passé des examens de santé? Vous avez vu un médecin spécifiquement sur vos problèmes gastriques?
Ben, au départ, je n'ai pas vu de médecin. Je suis allée en pharmacie. On m'a prescrit du Gaviscon et du Polygel. Et là, ça revenait toutes les semaines. Il y a 2 semaines, j'ai consulté. Le médecin m'a demandé de faire le H. pylori, qui est positif. Et j'ai rendez-vous vendredi pour une interprétation.
D'accord. Alors, Jean-Jacques Reynaud, docteur, notre auditrice du Cameroun, Camden, se fait dépister d'un H. pylori, Helicobacter pylori. De quoi s'agit-il?
C'est une petite bactérie qu'on trouve dans l'estomac, qu'on se contamine dans l'enfance. Finalement, ce n'est pas contagieux pour l'entourage. Dans la plupart des cas, ça ne donne pas de symptômes. Il faut savoir qu'il y a certaines populations qui ont un taux d'H. positif, de Helicobacter pylori positif, de plus de 50-60%. Donc, ce n'est pas une maladie en soi. Par contre, quand c'est associé à un contexte particulier, des antécédents familiaux de cancer, lorsqu'on doit prendre un traitement contre le reflux, ou lorsqu'on a ce qu'on appelle une dyspepsie, c'est une mauvaise digestion, on peut le faire disparaître en effet avec des traitements antibiotiques. Mais ce n'est pas toujours facile. En somme, il ne faut pas le faire disparaître chez tout le monde.
Ça dépend des cas.
Ça dépend des
Donc
cas.
C'est pour ça qu'il va y avoir une interprétation. Justement, vos questions maintenant, Camden, le docteur Reynaud vous écoute, allez-y.
D'accord, merci docteur. Je souhaiterais savoir si le rhume et le ballonnement sont liés à mes antécédents dépressifs, ça c'est d'un. De deux, le diabétologue me conseille de manger beaucoup de légumes, des choux, du haricot, tout ce qui est légumes. Et lorsque je consomme, alors je rote beaucoup et c'est inconfort.
Alors,
j'aimerais savoir si c'est lié à...
Vous dites le diabétologue parce que vous avez un diabète. Aujourd'hui, il est bien suivi, il est contrôlé, ce diabète, Camden?
Oui, il est contrôlé. Je suis sous metformine et Daonil et mes chiffres sont plutôt bons au réveil et au coucher. Ça va.
Voilà. Alors, ces questions par rapport... Vous faites un lien entre dépression et certains symptômes gastriques?
Alors, c'est un dossier très complexe. Il y a beaucoup de choses intriquées. Il y a le diabète, la dépression. Alors, dépression et symptômes gastriques, oui. Parce que... Quand on a des problèmes de fonctionnement du tube digestif, ça peut être lié soit à une infection même qui est passée, soit des problèmes, on va dire, psychologiques, mais pas toujours. Et en effet, la dépression peut être pourvoyeuse de syndrome de l'intestin irritable. Alors, ça peut être réactionnel à l'intestin irritable, ça fait tellement mal qu'on devient déprimé, ou on est déprimé parce qu'on a l'intestin irritable. Donc, les deux sont en parallèle. Mais néanmoins, nous, comme gastro-entérologues, on ne traite pas la dépression qui est souvent à part, mais ça peut être un facteur déclenchant.
Ça veut dire, encore une fois, c'est important pour les auditeurs, ça ne veut pas dire que c'est inventé, ça veut pas dire que c'est pas grave, ça veut dire qu'il faut en tenir compte.
Tout à fait. Alors souvent, quand on ne connaît pas l'intestin irritable, on dit c'est dans la tête, les gens sont pas bien dans leur tête. Non, c'est pas vraiment le problème. L'intestin irritable, c'est autre chose. C'est des problèmes de sensibilité des intestins, des problèmes de microbiote, des problèmes de transit. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport avec la psychologie des patients ou même avec des problèmes gynécologiques. Donc il faut traiter les choses pas à pas.
Et Camden, comme vous allez voir prochainement votre médecin pour l'interprétation, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre état de santé, c'est vraiment le moment, je dis souvent aux auditrices ou aux auditeurs, de faire leur petite liste. Toutes vos questions, vous les écrivez pour bien les poser quand vous arrivez le jour J en consultation.
D'accord.
Pour cette auditrice, je voudrais préciser 2 choses quand même. Quand on prend beaucoup de choux et de haricots, ce sont des aliments qui fermentent. Donc ça peut être responsable de ballonnement. Donc à consommer avec modération. La 2e chose, il y a des traitements pour le diabète comme la metformine qui sont bénéfiques, il faut les poursuivre, mais qui sont pourvoyeurs de beaucoup d'effets secondaires digestifs. Donc il faut faire attention et voir avec son médecin s'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, si on pense que c'est le médicament qui donne ce genre de choses. Et la 3e chose, le diabète par lui-même peut créer des petites lésions neurologiques et empêcher la vidange de l'estomac. Et donc ça peut créer ainsi ce qu'on appelle en médecine des gastroparésies, des parasites de l'estomac, mais il faut un diabète assez évolué qui donne des symptômes digestifs.
Donc en parler encore une fois au médecin.
Tout à fait.
Lors de la prochaine consultation. Merci beaucoup pour votre appel. On part maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On vous retrouve, docteur Alassane Mahassadi, bonjour.
Bonjour, bonjour madame.
Vous êtes épidémiologiste, gastro-entérologue, proctologue au CHU d'Angré, donc à Abidjan. Est-ce que ces douleurs abdominales dont on parle depuis le début de l'émission avec le docteur Reynaud, c'est un motif chez vous de consultation fréquent?
Alors c'est un motif de consultation, effectivement. Plus d'un tiers de nos patients que nous recevons, effectivement, viennent pour des douleurs abdominales. Et plus de 100% d'entre eux ont une colopathie fonctionnelle.
Est-ce qu'ils attendent longtemps, ces patients, avant de venir consulter? Est-ce qu'ils subissent pendant, on va dire, des mois ou des années, ces symptômes, ces douleurs ou ces gènes?
Ah oui, bien sûr. Les patients, en fait, qui vont de médecin en médecin, de spécialiste, qui viennent avec un ensemble de checklists quand nous recevons ici en consultation. Ils sont assez nombreux. Ils consultent un peu partout avant de venir voir le gastro-entérologue.
Excusez-moi, docteur Mahassadi, vous parlez directement dans votre téléphone ou vous êtes sur haut-parleur? Parce que je vous entends un petit peu loin. Et comme vos explications sont vraiment très intéressantes, j'aimerais que les auditeurs et les auditrices puissent pleinement en profiter. Justement, il y a des personnes qui arrivent avec finalement des maladies digestives à des stades assez avancés?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez, chez nous, notamment en Afrique, les patients errent de médecin en médecin.
Oui.
Et souvent, ils confondent tout par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Lorsqu'ils ont une douleur abdominale, bon, voilà, c'est une colopathie, alors que c'est un cancer. Mmh. Et on arrive à voir que ces patients, effectivement, avaient des stades vraiment très avancés, notamment ceux de cancer, ces patients qui viennent nous voir en consultation.
Est-ce que vous avez constaté aussi, avec justement l'expérience des patients, des habitudes, des pratiques du quotidien ou des consommations qui peuvent aggraver la situation? Comme on dit, ça fait plus de mal que de bien.
Alors, vous savez, comme l'a dit l'éditrice de Panoro, vous savez qu'en Afrique, on mange tout. Hein, on mange tout. Il y a des aliments fermentescibles, comme l'a dit le docteur Renaud, qui peuvent donc entraîner des ballonnements et aggraver la symptomatologie. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir, c'est que lorsque les patients viennent nous voir pour un stade de colopathie et qu'ils sont quand même d'un certain âge, on prend toutes les précautions pour éliminer tout ce qui est organique, tout ce qui est cancer ou autre chose qui pourrait quand même impacter la vie de l'individu. Mmh.
On a une question concrète, on a un auditeur du chat qui est en ligne avec nous, c'est André. André, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 33 ans, André. Vous, des problèmes de transit depuis un an et un diagnostic. Expliquez-nous, s'il vous plaît, exactement ce qui s'est passé.
Alors, ça fait cela un an que j'avais eu le trouble digestif suite à la colopathie fonctionnelle diagnostiquée par le médecin gastro-entérologue.
Oui.
Il m'avait soumis à un traitement Forlax. En raison de 3 sachets par jour. Mmh. Et dès que j'avais pris ces médicaments, il n'y avait pas d'amélioration.
Ouais. Vous avez pris le traitement combien de jours avant de vous tourner vers un autre soignant, un autre praticien?
Bon, ça a fait presque un mois que j'avais pris le traitement, ça ne résolve pas et je ne faisais pas le sel carrément.
D'accord. Vous n'avez pas eu de sel pendant un mois? C'est ce que vous êtes en train de me dire, André?
Je n'ai pas fait de sel pendant 8 jours.
8 jours, d'accord. Et du coup, comme vous avez constaté que ça ne marchait pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir un autre praticien?
Oui, dès le moment où j'avais constaté que ça ne passait pas, j'étais passé chez un traduit praticien.
Oui. Il vous a conseillé quoi?
Il m'avait donné un écorce et j'ai commencé à boire ça.
Vous avez fait une décoction avec des écorces. Est-ce que vous savez c'était des écorces de quoi? De quel arbre ou de quelle plante?
Oh, l'écorce, comme il m'amenait à la maison, il ne m'avait pas parlé de quelle plante il s'agit.
En tout cas, est-ce que ça a marché?
Ça a marché, effectivement. 2 jours plus tard, j'avais commencé à faire le sel.
D'accord. Aujourd'hui, vous en êtes où au niveau digestif?
Hein?
Aujourd'hui, vous en êtes où au niveau digestif?
Aujourd'hui, j'ai un problème de troubles digestifs.
Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres symptômes?
Non, d'autres symptômes, il n'y a pas. Sauf que si je mange maintenant suffisamment, je m'étouffe, j'ai un problème de respiratoire.
Ça veut dire que, alors j'essaye de comprendre. Donc, vous êtes constipé et quand vous mangez, vous n'arrivez plus à respirer.
Oui.
D'accord. Donc, et votre question, j'imagine, André, c'est s'il y a un lien entre les deux, entre les problèmes de digestion et cette gêne respiratoire.
Effectivement.
Alors, je me tourne vers le spécialiste qui suit tout ça. Hein, on vous écoute bien. Docteur Alassane Massadi, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre auditeur du Tchad, à André?
Alors, ce que je peux lui dire, la première des choses, c'est que d'abord, il a une constipation chronique. Il a quel âge? Alors, il faut faire très, très attention. Lorsqu'il y a une constipation chronique, il ne semble pas trop marcher à la prise des médicaments, il faut faire une coloscopie.
Il a 33 ans. Il a 33 ans, André. Hein?
Alors, vous savez que la coloscopie, contrairement à ce qui se passe en France, nous, on a beaucoup de curseurs à 40-45 ans, voire même à 30 ans. Parce qu'on a des patients qui ont un cancer du côlon à 20 ans.
Ah oui. En même temps, on va peut-être pas dire ça tout de suite comme ça, parce qu'on ne va pas non plus paniquer André, si vous le voulez bien. On va peut-être aller un peu doucement, puisque d'autant plus que je ne sais pas si c'est possible pour André de faire une coloscopie. Moi, je sais qu'il y a des spécialistes qui conseillent à nos auditeurs de faire tel ou tel examen. Le problème, c'est encore, faut-il pouvoir le financer? Et ça, on ne peut pas, et vous le savez bien quand vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est une réalité dans beaucoup de pays. C'est pas du tout évident de trouver le budget pour le faire. André, est-ce que vous avez déjà pensé à une coloscopie ou pas vraiment?
Non, je n'avais pas pensé à la coloscopie du moment où actuellement la situation est remédiée, je faisais le sel, j'avais pensé que tout va être normal.
Mais attendez, bien évidemment, André, vous avez bien compris, c'est pas du tout un diagnostic ce qui vient d'être dit. Hein. Là, vous avez dit que vous avez des problèmes de constipation occasionnelle avec des problèmes, un petit peu une pression au bout d'un certain nombre de jours. Je me tourne vers notre autre invité en studio, docteur Jean-Jacques Reynaud. Vous avez comme ça des symptômes de personnes qui sont, on va dire, tellement constipées qu'ils se sentent un petit peu à bout de souffle?
Oui, c'est assez classique. Alors, juste une petite chose, le Forlax, ça marche très vite, ça marche en un ou deux jours. Et si on veut que ça marche, ça doit être pris en une prise, jamais en trois prises. C'est comme une chasse d'eau, il faut tirer dessus un grand coup. Si on le répartit, ça ballonne au contraire. Et ça peut créer des ballonnements. Et pour rebondir, ce ballonnement peut créer un inconfort respiratoire parce que le diaphragme a du mal à descendre, ça crée une hyperpression. Et donc ces personnes-là sont ballonnées. Et lorsqu'elles libèrent l'intestin, la respiration se fait mieux.
Quand vous dites en une fois, parce que ce sont des granules dans un sachet, ça veut dire qu'on prend plusieurs sachets en même temps?
Ce ne sont pas des granulés, c'est du sucre soluble.
D'accord.
Et ce sucre n'est pas absorbé, il crée un appel d'eau et va hydrater les selles. Donc on prend deux ou trois sachets d'un coup.
D'un coup. Est-ce que vous pouvez essayer de faire ça comme ça, André, un petit peu? Parce que c'est vrai que le Forlax, en plus, ça ne s'achète pas forcément sur ordonnance.
On peut retourner
à la pharmacie, le chercher, et ce n'est pas très onéreux. Peut-être ça comme traitement d'appoint, en mettant trois sachets dans un verre d'eau, et essayer voir si déjà vous vous sentez beaucoup mieux comme ça.
Merci.
Ah ben, je sais pas, me dites pas merci, hein. Vous dites ça, et puis aussi, si surtout, comme l'a dit le docteur Massadi, si ça persiste, il faut quand même aller consulter.
Tout à fait, il faut consulter. Alors, autre chose, alors, je sais que la coloscopie est difficile en Afrique, mais nous, pendant très longtemps en France, on faisait ce qu'on appelait des lavements barités, donc il n'y a pas d'anesthésie, c'est assez simple. Et lavement barité, c'est pas bon pour les petits polypes, c'est sûr, donc c'est inférieur à la coloscopie. Mais lorsqu'il y a un cancer sténosant qui donne la constipation, on le voit. Et donc, quelquefois, le lavement barité peut être une solution qui n'est pas idéale, mais qui est mieux que rien. Dernière chose pour les cancers jeunes, c'est vrai qu'en Afrique, il y en a de plus jeunes, mais néanmoins, nous, en France, mais ça doit être la même chose en Afrique, il faut regarder les antécédents familiaux, qui ont les antécédents familiaux dans la famille, il faut être très très prudent et commencer le dépistage beaucoup plus tôt.
Voilà pour toutes ces questions et toutes ces réponses. André, dernier point, docteur Alassane Massadi, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, sur le terme de l'alimentation, juste quelques conseils, des choses à éviter quand on a une tendance à la constipation.
Alors, la chose à éviter, alors, tout simplement, il faut éviter tout ce qui est aliment qui va, il faut avoir une pureté de sel. Première chose, il faut aller régulièrement à la selle. Deuxième de chose, boire beaucoup d'eau. Troisième de chose, consommer des médicaments qui vont rendre, donc, molle, donc les selles lorsqu'on va aux toilettes. Alors, il faut éviter de différer les selles. Et très souvent, ce que les gens font, ils ont envie d'aller à la selle et diffèrent les selles, l'évacuation des selles, pour X raisons. Et là, ça entraîne donc l'assèchement des selles et ça rend difficile l'évacuation des selles.
C'est encore plus compliqué, docteur Alassane Massadi. On l'a bien compris. Merci à vous. Le mot de la fin avec vous, docteur Jean-Jacques Reynaud. Il nous reste quelques secondes.
Alors, juste, il n'y a pas d'aliment diabolique. Hein. Le riz, la banane, on le donne pour les gastro-entérites. Mais si on aime le riz, on peut en manger, à condition de ne pas manger que du riz.
Voilà. Le tout, c'est de faire preuve de mesure, comme d'habitude. D'équilibre, un grand merci. Merci pour toutes ces explications et conseils. L'écoute de nos auditeurs et auditrices. On va parler activité physique dans quelques instants. Ce sera juste après ce titre de Nona Ogot avec Ningo J. Et tout de suite, vous pourrez retrouver le docteur Jean-Marc Sen.
Sasa na mpenzi inaniuma mi moyoni ijapo nenda vitani ntarudi ningoje weke moyoni tani tamani usijali.
L'activité physique et santé à présent dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport, aujourd'hui, vous nous parlez des douleurs de l'épaule. Beaucoup de nos auditeurs et auditrices ont une douleur de l'épaule en faisant du sport, parfois même en ne faisant, on va dire, rien dans la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Les douleurs de l'épaule, les douleurs chroniques de l'épaule sont fréquentes, surtout après 50 ans. Chronique, c'est quand la douleur dure plus de 3 mois. Et souvent, ces douleurs-là vont être associées à d'autres symptômes, comme une raideur, une diminution de la mobilité ou de la force musculaire. Et alors, cette douleur, généralement, elle est liée à une atteinte de tout ce qui est autour de l'articulation. Les tendons, on appelle ça la coiffe des rotateurs. Et puis, il y a une capsule dans l'articulation qui peut faire mal également, c'est une capsulite. Et puis, il y a une bourse de glissement entre l'articulation et les tendons, et ça peut être une bursite. Et généralement, c'est lié au travail. Ça peut être lié au sport, bien sûr, à certains gestes sportifs, comme le lancer qu'on peut voir au volley, au handball, des activités, bien sûr, traumatiques qu'on peut avoir au rugby ou au judo. Mais généralement, effectivement, c'est au travail qu'on va avoir ça, parce qu'on a des contraintes et des postures bras en l'air, et donc là, on contraint l'épaule, ou bien on fait des mouvements répétés avec une grande amplitude, ça peut poser problème, ou alors on fait des efforts musculaires importants avec force, et là aussi, on peut se faire mal aux épaules.
Alors, ma fameuse question, quand on a ces douleurs, est-ce qu'on doit consulter, docteur?
Absolument, on doit consulter si la douleur persiste. Évidemment, on a parlé des 3 mois. L'idée, c'est que le médecin fasse un diagnostic précis, évidemment, qu'il puisse dire quelle est la structure anatomique qui fait mal. Et puis là, il vous proposera des médicaments, infiltration, de la kinésithérapie. Et puis, il ne faudra pas hésiter à adapter son poste de travail ou son activité sportive, parce que, évidemment, après avoir calmé la douleur, si on continue à faire un mauvais geste ou si on n'a pas suffisamment rééduqué son épaule, eh bien, la douleur peut revenir ou persister. Donc, consulter son médecin, bien suivre son traitement, bien faire les conseils donnés par le kinésithérapeute, ça, c'est vraiment ce qu'il faut réaliser lorsqu'on souffre de l'épaule.
Alors, on a récupéré. Maintenant, quels conseils pour épargner à l'avenir l'épaule et puis pour diminuer les douleurs si elles sont toujours là?
Alors, première chose, c'est que l'immobilisation totale de l'épaule n'est pas recommandée. Vous savez, quelquefois, on se dit, j'ai mal, je ne bouge plus du tout. Non, ce n'est pas bien parce que cette épaule, elle va s'enraidir et au contraire, la douleur va venir encore plus facilement. Il faut mobiliser l'épaule, donc, mais en diminuant les mouvements, en évitant les mouvements douloureux et en faisant des mouvements doux surtout. Il ne faut pas forcer cette épaule. Et donc, l'idée, c'est d'éviter aussi des mouvements répétitifs, de grande amplitude, brusques. Tout ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter de porter des charges lourdes, évidemment. Et puis, si on a mal la nuit, évidemment, on évite de dormir sur l'épaule où on a mal. On va être sur le dos, on va être sur l'autre côté, éventuellement sur le ventre, mais on évite de solliciter cette épaule. Pour s'habiller, par exemple, on commence par l'épaule douloureuse et ensuite on va mobiliser
l'épaule non douloureuse. C'est pratique, mais c'est pas bête.
Voilà, pour éviter d'avoir ces genres de douleurs. Et puis on supprime ou on adapte les activités nocives, notamment les sports de lancer ou à risque traumatique de chute, par exemple, sur l'épaule. Voilà, avec ces quelques conseils, normalement, on devrait un peu protéger son épaule et pouvoir bouger amplement.
Merci beaucoup, docteur Sen, et à très bientôt dans Priorité Santé, puisqu'on vous retrouve régulièrement dans l'émission. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Louise Kaledek, Talim Pou, Damien Roucou, Didier Bleu, Oscar Jouxtel à la réalisation. Demain, dans Priorité Santé, vous retrouverez le docteur Catherine Solano en direct pour lui poser toutes vos questions. Le sujet du jour, matin, midi ou soir, l'heure du sexe. Y a-t-il un meilleur moment pour l'amour, l'intimité, l'épanouissement sexuel? Et en cas de décalage, quel conseil? Bien sûr, vous pouvez nous joindre. Numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. 33 7 61 18 46 41. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.